Dan Gagnon pour le podcast tout seul, le numéro 27. Aujourd'hui, ça va être une spéciale Québec. Il y a trois sujets dont je veux parler et les trois se passent au Québec. Le premier, c'est beaucoup plus léger. Il y en a deux, ça va être dans le monde du sport en passant. Le dernier numéro, c'était sur les feux de l'amour. Là, c'est sur le sport, mais pour moi, c'est exactement le même sujet. Comment prendre des histoires de coulisses et rendre ça intéressant pour n'importe qui. Tout le monde aime les histoires de coulisses quand elles sont bien racontées, donc j'espère que je vais arriver à bien les raconter. Je sais que la plupart des gens qui écoutent ce podcast, ce sont des Français. Donc, vous n'avez aucune idée qui est Serge Vlemminx. Si oui, votre culture est impressionnante. Sinon, c'est tout à fait normal. Serge Vlemminx est une légende québécoise comme annonceur sportif. Et là, on pense Québec, on pense annonceur sportif, on se dit directement « Ah, le hockey, hockey sur glace ». Pas du tout. Sport américain comme le baseball, le football, américain non cool, le basketball, absolument pas. Serge Vlemminx est une légende du mini-golf. Oui, pendant tout un temps, le mini-golf, via une chaîne de mini-golf, ça s'appelait le mini-pot, avait des championnats qui étaient diffusés à la télévision. C'était à une époque où le réseau sportif numéro 1, donc celui, le seul qu'on avait d'ailleurs au Québec, qui diffusait tous les sports, donc RDS, n'avait pas un milliard de choses à se mettre sous la dent non plus. L'avantage, c'est qu'étant le seul diffuseur de sport en continu en français en Amérique du Nord, il y avait les droits pour à peu près tout et n'importe quoi, mais il fallait quand même remplir. Et donc, l'été, il y avait des tournois dans les différents mini-potes donc, de la région et il y avait un descripteur. Donc tu voyais vraiment des gens jouer au mini-pot et tu avais quelqu'un sur place, Serge Vlemminx en l'occurrence, qui décrivait. Et si dans ta vie, tu veux être journaliste sportif et qu'on dit, écoute, super, j'ai une opportunité pour toi, tu vas décrire du mini-golf, ça se pourrait que ça ne réalise pas ton plus grand rêve. Et là où Serge Vlemminx a été un génie, et je pèse mes mots, c'est qu'il a décidé d'en faire un show. C'est dit, garde, c'est du mini-pot. C'est bizarrement, le mini-pot, c'est comme le curling ou les dards, où j'ai le ça avec le poker aussi. Si je tombe là-dessus à la télé, je fais, mais enfin, pourquoi il diffuse ça? Puis genre, 11 minutes après, je fais, ah. Je suis devenu comme un espèce de demi-spécialiste. Il aurait dû prendre l'angle à 30 sur la bande pour pouvoir réussir le trou numéro 14. Je me laisse toujours happer par ce genre de choses-là. Mais lui a décidé d'en faire un show et c'est devenu la grande star du mini-pot, si je puis m'exprimer ainsi. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est que le dit réseau des sports, forcément, c'est un peu... C'est pas idéal en ce moment. Je veux dire, leur spécialité, c'est de diffuser du sport. Il n'y a plus de nouveaux sports. Donc là, je crois qu'ils diffusent des matchs de la Coupe du Monde de soccer, donc de foot, milieu des années 80. Bref, l'Allemagne de l'Ouest jouait dans la dernière chose que j'ai vue. Donc c'est sûr que ça date quand même un peu. Ils rediffusent des anciens matchs du Canadien de Montréal. Ils rediffusent des... Et là, il a décidé de rediffuser une saison de mini-pot. Et je l'ai su en écoutant Radio Énergie, une émission qui s'appelle Le Retour de Jérôme Landry, et un gars qui s'appelle donc Nico, qui a fait entendre quelques extraits, et je me suis dit que c'est vrai que ça valait vraiment, vraiment la peine de vous faire découvrir Serge Vlemminx. Voilà, maintenant que l'introduction est faite, je vous laisse avec son génie, et vous devez savoir que les gens dont vous allez entendre parler... Carl Carmoni, sont devenus cultes au Québec uniquement grâce à Serge Vlemminx. Donc, le talent n'est pas toujours où on s'attendrait à le voir ressurgir. Serge Vlemminx, mesdames, messieurs.
Et c'est la bagarre qui commence avec Carl Carmoni, champion des bourses. Et dès le départ, Belling Carmoni, Birdie. Oh, attention! Birdie!
Carl Carmoni.
Définitivement ici que ça joue, ça.
Il représente le mini-pot de Fabreville sous les regards de Suzanne Carmoni qu'on voit là, oui. Au fond de l'écran. la ligne.
Ça se pourra. Ça se pourra. Ça se pourra.
Bonnet! Oh, superbe, important, crucial. Carl Carmoni qui fait un bond de géant.
Ah ouais. Oh, attention! Oh, oui. Oh.
Bonnet! Incroyable! Renversant, superbe!
Bon, ça va vraiment être dans un tout autre ordre d'idées. Mais je voulais vous parler d'un autre sportif absolument fascinant. C'est un joueur de ce que vous appelez foot américain, donc ça veut dire juste foot, on va gagner du temps. Et c'est un des gros gars qui est sur la ligne. En gros, si vous ne connaissez pas le football, c'est pas très compliqué. Il y a quelqu'un qui a le ballon, qui va sur une ligne, il va le passer à quelqu'un qui s'appelle le quarterback, donc le quart arrière, qui va choisir de faire une passe ou de courir ou de le donner à quelqu'un qui court. T'essaies de traverser le terrain. Si tu n'y arrives pas, après un certain nombre d'essais, c'est à l'autre équipe à essayer d'aller sur ton terrain. Donc, c'est hyper technique parce que les joueurs qui sont là quand c'est le temps d'attaquer ne sont pas les mêmes que quand c'est le temps de défendre. Enfin, bref, donc, c'est assez intéressant comme logique de sport. Et Laurent Duvernay-Tardif est un Québécois. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dans l'histoire qui ont percé en NFL. Donc, voilà. On a un circuit de football canadien qui s'appelle la Ligue canadienne de football. Là, tu as énormément de Canadiens là-dedans, de Québécois. Mais en NFL, il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Et la particularité de Laurent Duvernay-Tardif, c'est que c'est une star, déjà. Le dernier contrat qu'il a signé est 45 millions de dollars pour quelques années. Mais si tu veux réussir pour jouer au football professionnel, tu dois passer par les rangs universitaires américains en général, canadiens parfois, mais c'est comme ça que les professionnels deviennent professionnels. C'est le circuit universitaire. Pour donner une idée, si tu es coach pour une université américaine, en tant que coach, tu peux gagner 1 million de dollars par année. L'équipe des Wolverines du Michigan ont un stade pour les matchs, ont un stade d'entraînement et ont un appartement pour l'ensemble de, des appartements pour l'ensemble de leur équipe. C'est donc plusieurs dizaines de joueurs. Et le football universitaire se joue toujours le samedi, quelques exceptions vraies. Le professionnel le dimanche et le football du secondaire, c'est le vendredi. D'où Friday Night Lights, pour ceux qui ont vu le film. Et à partir du jeudi, les joueurs des Wolverines du Michigan vont s'enfermer dans les appartements pour ne pas avoir de distractions extérieures. Oui, bon, en théorie, tout ça, ce sont des joueurs universitaires. Il y a évidemment eu des scandales, des superstars de la NFL. On s'est rendu compte qu'ils étaient analphabètes alors qu'ils étaient passés par l'université. Et si tu ne réussis pas ton année de mémoire, tu n'as pas le droit de continuer de jouer au football. Donc voilà, évidemment, il y a eu des histoires de passe-droit un peu partout. Laurent Duvernay-Tardif a choisi, lui, de jouer son football universitaire au Canada, à l'université McGill, pour être précis. Parce qu'en même temps qu'il faisait son football, il y avait des petits objectifs de carrière académique et il voulait devenir médecin. Et il a effectivement réussi à devenir médecin. Il a eu son diplôme, il a terminé ses études de médecine alors qu'il était dans la NFL. Pendant la saison morte, il reprenait et il continuait ses études. Quand il a obtenu son diplôme en médecine, il a fait une demande officielle à la NFL pour voir s'il pouvait mettre donc sur son maillot, dans le dos, MD à la fin. La NFL a refusé. On peut comprendre, ceci étant dit. Mais ça aurait été hyper marrant. Et à l'époque, c'est tellement une force de la nature, ce garçon. Et quand je dis garçon, il faut aller voir ses mensurations. C'est plusieurs garçons en un. Il avait expliqué aux Redmen. Redmen, c'est l'équipe de football de l'Université McGill, qui, en passant, est la meilleure école de médecine au Canada. Donc, c'est pas comme s'il avait choisi le chemin facile non plus. Il a dit, écoute, moi, je veux bien jouer avec vous. Il y a juste un truc, c'est que je suis vraiment sérieux avec mes études de médecine, donc je pourrais pas m'entraîner plus d'une fois par semaine. Malgré tout, selon un de ses entraîneurs et un superviseur de la ligue, en s'entraînant une seule fois par semaine, c'était encore le meilleur joueur universitaire au Canada. Il a été repêché par les Chiefs de Kansas City. Si ce nom vous dit vaguement quelque chose, c'est parce qu'en février dernier, les Chiefs de Kansas City ont gagné un truc qu'on appelle, bon, trois fois rien, le Super Bowl. Donc, Laurent Duvernay-Tardif est médecin, fait ses études pendant la saison morte, gagne le Super Bowl en février. Et si je parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait la couverture du Sports Illustrated. Sports Illustrated, c'est le magazine culte de sport en Amérique du Nord. Si vous, ça vous dit vaguement quelque chose, ils ont, je ne sais pas s'ils le font encore d'ailleurs, mais ils ont, il y avait à l'époque une édition spéciale annuelle qui s'appelait The Swimsuit Issue. C'était en gros, comme son nom l'indique, des maillots de bain. Et ils ont, et ça, je sais qu'ils le faisaient encore jusqu'à tout récemment, je crois que c'est encore actuel, ils ont une édition qui s'appelle The Body Issue, où là, ils vont prendre des athlètes dans à peu près n'importe quel sport, toutes sortes de physiques d'ailleurs, gars-filles, et qui posent nus, en fait. Et je trouve souvent ces photos sublimes. Tu vois, en fonction du sport, est-ce que c'est les cuisses, le haut du corps, est-ce que c'est plutôt en triangle, quoi que ce soit, mais c'est des gens dont toute la vie est consacrée à entretenir leur corps pour être les meilleurs possibles dans leur sport. Et donc, ça a vraiment quelque chose de super intéressant. Et donc, Laurent Duvernay-Tardy a fait la couverture du Sports Illustrated pour une raison très, 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 très claire. C'est que là, donc, la NFL s'est arrêtée en février. On ne sait pas quand ça va reprendre. Et pendant le temps mort, pendant la pandémie, il s'est dit, mais en fait, je suis médecin. Et donc, il a décidé d'aller aider dans le réseau de la médecine. Et en ce moment, il donne un coup de main. Je crois qu'il est dans ce qu'on appelle un CHSLD, c'est-à-dire un centre hospitalier de soins en longue durée. C'est là où les personnes plus âgées qui on sait ne vont probablement pas sortir, qui ont des conditions assez graves. Et c'est là qu'il y a le plus de coronavirus. Au Québec, sur les, il y a un peu plus de 1000 cas, de 1000 décès. Pour l'instant, la plupart, ce sont dans des centres hospitaliers de soins longue durée. Évidemment, en plus de tout ça, Laurent Duvernay-Tardy, il fait aussi des choses avec ses mains. Il y a une entreprise où il fait des objets en bois, des bols, entre autres. Je crois qu'il fait des couverts aussi en bois. Il y a évidemment une fondation, parce qu'il travaille aussi dans le caritatif. Et je trouve, et c'est pour ça aussi que je voulais en parler, déjà, évidemment, j'adore cette personne, pour des raisons assez évidentes, quel super modèle. Il travaille avec une compagnie qui s'appelle, je crois, c'est Shockwave, j'ai oublié le nom exact de la compagnie, mais il y a beaucoup de problèmes de commotion cérébrale au football américain, et depuis 2018, je crois, il travaille avec eux. Ils mettent des petits capteurs et des sensors, donc dans les casques des joueurs de football, pour pouvoir mesurer les impacts, pour essayer de travailler justement à la réduction des problèmes de commotion cérébrale dans la pratique de ce sport. Donc, j'aime beaucoup cette personne, évidemment, mais j'ai entendu des trucs parce qu'il est passé à une émission au Québec qui est une des plus populaires le dimanche soir. C'est le Tout le monde en parle, en gros, qui bizarrement, ça va vous faire marrer, mais Tout le monde en parle a été racheté, le concept donc français a été racheté par un Québécois qui l'anime, qui s'appelle Guillaume Lepage. Et ce gars-là aussi vendu en France une émission que vous connaissez bien, Un gars, une fille. Donc, le créateur de Un gars, une fille, et l'acteur d'Un gars, une fille pour nous au Québec, et l'animateur de Tout le monde en parle. Je ne verrais pas nécessairement Thierry Ardisson dans Un gars, une fille, mais ça, ou Jean Dujardin, animateur de Tout le monde en parle, pourquoi pas, j'en sais rien. Enfin bref, donc il était invité. Et j'ai entendu beaucoup de gens, parce que ça fait un bout de temps que Laurent Duvernay-Tardy a été travaillé pour aider pendant la pandémie. Et beaucoup de gens qui disent « Ah, mais pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Il dit qu'il veut faire ça discrètement, mais là, finalement, il fait la couverture du Sports Illustrated, il va à télé pour le dire. » Le premier ministre là, a salué son travail à lui et une autre athlète qui s'appelle Joanie Rochette, qui, elle aussi, s'implique pour aider pendant la pandémie. Et c'est un truc que j'entends souvent entre le... Quand quelqu'un fait un don et que c'est un millionnaire, enfin bon, mais il peut, lui, avec l'argent qu'il a. Déjà, calcule le pourcentage que ça représente pour lui. Est-ce que toi, tu donnes ce pourcentage-là? Si oui, super pour toi, tu devrais être content que d'autres personnes donnent. Et sinon, mais ferme ta gueule, quoi. Pourquoi? Parce que les autres ont plus que toi, ils devraient donner plus que ce que toi, tu donnes proportionnellement. Ça m'a toujours profondément dérangé comme logique de... Parce que le sous-entendu, c'est si moi, je ne suis pas une personne géniale, c'est parce que je n'ai pas la chance d'être millionnaire ou je n'ai pas la chance de... Mais si j'avais ce que toi, tu as, je serais au final complètement différent de ce que je suis aujourd'hui. Il y a aussi quelqu'un qui est millionnaire. Laurent Duvernay-Tardif, il est millionnaire parce que les gens payent parce qu'ils veulent venir le voir jouer au football parce qu'il est bon. En quoi est-ce qu'il est obligé, parce qu'il y a de l'argent, de le redonner? C'est super qu'il le fasse, mais tu peux pas dire, wow, à partir de, du moment où tu as tant dans ton compte, en banque, paf, tu dois donner. Et cette autre logique-là aussi de, ah, mais c'est cool qu'il le fasse, mais il n'y a pas plus de mérite, lui, que n'importe qui d'autre qui va aussi aller donner un coup de main alors que c'est pas son job. Oui et non. Moi, je trouve que oui, il n'y a pas plus de mérite, mais par contre, la raison pour laquelle c'est super intéressant d'en parler, c'est parce que ça risque d'avoir un impact. Ça risque de pouvoir inspirer les autres. Tu dis, oh mon Dieu, lui, il le fait. Ah, je pourrais peut-être me bouger. Ou genre, ah, oh, lui, je le fais. Le simple fait que ça soit une histoire fait en sorte que ça prend l'espace public. Et donc, on discute de choses positives, de gens qui vont donner des coups de main, de gens qui s'impliquent, de gens qui font des efforts. Si moi, je fais la même chose, j'arrête de faire ce que je fais aujourd'hui pour aller donner un coup de main dans les CHSLD, ils vont être contents d'avoir une personne en plus, mais mon impact va s'arrêter là. Je crois qu'il faut arrêter de toujours voir les gens connus qui font parler d'eux pour des bonnes choses comme étant de l'ego. Il y a aussi, et parfois c'est le cas, quelqu'un qui se filme en allant donner de l'argent à des SDF, c'est particulier, mais dans un cas comme celui-ci, c'est essayer de maximiser l'impact que tu peux avoir au-delà de ton implication personnelle. Je trouve. Bref, si vous cherchez un modèle, Laurent Duvernay-Tardif, je vous conseille grandement, il faut aller fouiller sur ce gars-là. Évidemment, en plus, il est super intéressant, il parle très bien. Il est beau. Hein? Pourquoi en plus il serait pas beau? Évidemment. Donc, cool modèle et vraiment une personne qui mérite qu'on parle d'elle, je trouve. Je vais terminer rapidement en parlant de gens que j'aime bien, de trois humoristes québécois que j'aime bien. Dans une émission, un podcast qui est excessivement populaire qui s'appelle Sous-écoute avec Mike Ward. Ils ont parlé de moi cette semaine, dans le dernier épisode qui est sorti cette semaine, et je voulais revenir sur ce qu'ils ont dit. Mais avant, je vais vous présenter les humoristes. Mike Ward, déjà. Mike Ward, si vous connaissez cette personne, déjà, félicitations, vous avez bon goût. C'est un humoriste qui est vu, ou qu'il est, chacun va juger, comme étant assez trash, qui a été pris dans certaines polémiques pour des gags qu'il a pu faire dans sa vie. Et il est super connu au Québec depuis des années. Et je trouve que l'image qu'il a correspond pas à la beauté de la personne qu'il est, de ce que je connais de lui. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises. J'ai beaucoup d'amis qui sont humoristes et donc qui le connaissent. Et Mike Ward, c'est un gars qui a eu énormément de succès depuis des années, qui vit très bien de son art. Pour donner une idée, son podcast est tellement populaire sous écoute qu'en théorie, cet été, il devait faire un numéro au Centre Bell. Le Centre Bell, c'est là où le Canadien de Montréal joue. Donc, il allait avoir... Je crois qu'il avait, en plus, il a vendu genre quelque chose comme 10 000 billets en 24 heures. Donc, 10 000 tickets pour aller voir un podcast en live. Ça donne un peu une idée de son impact général. Et c'est quelqu'un de profondément amoureux de la comédie, hyper généreux. Dès que tu as des jeunes qui commencent, qui ont un plateau, qui ont un nouveau podcast, il est toujours présent. Quand il y a du caritatif, il est toujours là. On parle de gens qui donne sans dire qui donne. Lui, je sais que c'est le cas. Il y a plein d'histoires qui finissent par circuler à son sujet. Jamais tu vas lui l'entendre en parler, mais il a l'air d'avoir des convictions profondes, de vivre via ses convictions. Après, on aime ou on n'aime pas son humour, on aime ou on n'aime pas sa façon de parler, ce qu'il choisit à être la limite ou pas, mais il est intègre, marrant, généreux et me semble profondément sincère. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer deux, trois fois. Il est aussi copropriétaire du Bordel Comedy Club, qui est le comedy club le plus important au Québec. Il est avec d'autres superstars de l'humour, entre autres. Et il fait, tous les dimanches, avant le confinement, il enregistrait deux numéros de son podcast, donc Sous écoute, que je vous conseille évidemment, soit en audio, soit en vidéo. Et il est à plus de, je crois qu'il est à plus de... Il approche les 280 numéros, si ma mémoire est bonne. Et là, il reçoit deux personnes qui sont aussi absolument merveilleuses. François Bellefeuille François Bellefeuille, c'est un ancien vétérinaire qui est devenu humoriste. Et il y a un de mes amis qui écrit avec lui. Et donc, j'ai une fois eu l'occasion d'aller le voir roder son deuxième spectacle. Entre-temps, son deuxième spectacle était tellement bon qu'il a gagné des prix, même dans des galas où, en général, j'aurais gagné le meilleur show de l'année, alors que plus ou moins dans les 20 dernières années, c'était des musiciens qui gagnaient ce prix-là. Donc, son nouveau show avait ce niveau de qualité exceptionnel-là. Et donc, le gars a commencé l'humour sur le tard. Et je l'ai vu donc aller roder 15-20 minutes pour son nouveau show. Et je l'ai vu débriefer avec mon ami qui est auteur. Et le professionnalisme, le jusqu'au boutisme, comme vous dites en Europe, est exceptionnel. Je veux dire, il avait super bien fonctionné, les gens rigolaient, mais tu vois qu'ils se questionnaient sur chaque virgule. Il y avait un côté 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage. Ouais. Il cherchait la justesse dans tout. C'était hyper beau de le voir. Et lui, il avait explosé dès son premier spectacle. Et d'habitude, c'est un peu risqué après ça d'en faire un deuxième. Et tout le monde s'est entendu pour dire que c'était un des meilleurs shows de tous les temps. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec lui aussi. Et autre personne qui a l'air absolument fantastique et merveilleuse. Et le troisième invité, c'est quelqu'un qui s'appelle Étienne Dano. Étienne Dano, c'est aussi un humoriste qui est là depuis une assez longue période et qui est assez créatif. Moi, j'ai beaucoup aimé la quantité de choses nouvelles qu'il va tenter, la vision. Tu le sens quand il travaille, il dit « Ok, mais j'aimerais parler de ça. Comment est-ce que je peux l'amener de ce que j'ai vu faire de loin? » Je le connais moins, j'ai joué une fois avec lui dans un bar à Montréal. Mais les questions qui se posent, genre dès le début du confinement, c'était un des premiers à faire un live sur YouTube pour essayer de voir comment est-ce qu'il pouvait bouger les choses. Il va chercher à faire des concepts. Il était dans un super show qui s'appelait Les 5 Prochains, où ça suivait 5 humoristes de la relève qui étaient pressentis comme étant peut-être les 5 prochains à exploser. Et quand tu regardes qui sont ces 5 personnes aujourd'hui, ils ont effectivement tous des carrières fantastiques. Et moi, je l'avais connu comme ça à l'époque en le découvrant sur ce DVD que j'avais acheté. C'est avant que je commence à faire de l'humour, je m'y intéressais et je trouvais le concept super. Et donc, ces trois-là sont au bordel et ils parlent du fait que pour les Québécois, ça a souvent été une technique pour un peu se faire connaître, d'aller jouer genre 5 shows en France ou en Suisse ou en Belgique, peu importe, et revenir au Québec en disant « Triomphe à Paris ». Tournée européenne sold out et comment ben, il faut investir plus que ça pour y arriver. Et ils finissent par parler de moi parce qu'il y en a un qui demande, c'est comment il s'appelle déjà le Québécois qui a eu une carrière en Belgique. Donc on va aller entendre l'extrait. Donc c'est Sous écoute avec Mike Ward, c'est le numéro de mémoire 275, donc 275. Ça dure à peu près 45 secondes, une minute l'extrait. Et on revient, je vais juste répondre à ce qu'ils disent.
Comment il s'appelle le Québécois qui lui, a fait carrière en Belgique?
Dan Gagnon.
Ouais. Dan Gagnon aussi.
Ouais, ouais. Mais tu sais, lui, il vit là-bas, puis je pense...
Mais je pense qu'il vit ici maintenant.
Je pense qu'il est revenu au Québec.
Il vit ici, ouais. Mais il veut pas jouer ici. Qui est une affaire weird. Ça l'aide.
Ouais. Moi, j'ai joué à l'Abreuvoir avec lui.
J'ai déjà rencontré.
Ah, ouais. Ouais.
OK, moi, à chaque fois, j'ai demandé, je sais comme, pourquoi tu joues pas au Québec?
Ouais.
Puis on dirait
que
ça
moi,
stressait.
Mais moi, je pense qu'il avait l'impression que ça stressait parce que... Hey, ça doit être difficile pour lui quand même. Là, là-bas, c'est pas aussi structuré qu'ici. Fait que lui, il y avait une émission de télé. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir à cause de ça. Puis, mais ça doit faire peur un peu d'arriver dans un marché où c'est très structuré. Puis je sais pas, peut-être qu'il se prépare un peu en cachette pour sortir. Je sais pas.
Peut-être.
Mais
c'est fou pareil qu'il s'est dit hey, moi, je vais essayer de faire de la scène. Déjà qu'au début, ça prend du guts, mais dans un autre pays d'où je viens.
Puis je pense j'ai déjà entendu un podcast. J'ai depuis le faire, là, mais il y en avait un qui était quand même pas mal intéressant qui parlait.
Ouais. Et c'est marrant parce que ce numéro du podcast-là est sorti quelque chose comme le lendemain du podcast que j'ai fait récemment en expliquant pourquoi j'avais arrêté le stand-up. Et donc, je l'ai reçu plusieurs fois par des gens qui me connaissent en me disant « t'as entendu ?» Donc, je suis allé écouter et je me disais « Ah, puis qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre ça ?» Déjà, ça m'a flatté, moi, c'est trois rockstars de l'humour pour moi. Au Québec, les humoristes, ce sont nos rockstars, ce sont nos stars tout court. C'est eux qui vont jouer dans des films, c'est eux qui se retrouvent en radio, en télé, qui sont partout. Et moi, étant toujours été fan d'humour, je sais, quand j'étais petit, je connaissais probablement une série de blagues de Mike Ward par cœur. Et donc, la première chose que ça a fait, ça m'a flatté qu'ils se souviennent de mon nom. Je les ai tous rencontrés, mais ces gens-là rencontrent beaucoup de gens et je ne crois pas avoir été marquant dans leur existence. Mais justement, Mike Ward s'intéresse tellement à l'humour que la première fois que je l'avais rencontré, c'était dans un podcast, le podcast de, qui s'appelle Le Carré de Sable. Si vous aimez aussi les interviews d'humoristes, c'est fait par Pierre-Bruno Rivard qui est aussi super intéressant. On était en même temps dans ce podcast et il connaissait ma carrière, grosse partie de ma carrière, et j'étais à la fois flatté et à la fois hyper gêné parce que je trouvais que ce qu'il y avait de moi sur Internet, c'était pas terrible, c'était à peu près le meilleur que je suis capable de faire, mais j'avais un peu peur d'être jugé par quelqu'un dont j'étais assez fan. Et quand je les entends tous dire, genre, je crois qu'il est stressé, premier réflexe, genre, j'étais semi-vexé en disant, mais non, je suis pas stressé, c'est pas pour ça que j'ai arrêté. Et deux secondes après, je me suis dit, mais oui, mais évidemment que je suis tétanisé, pas parce que je trouve ça spécialement plus facile en Belgique. Oui, c'est pas structuré, l'humour en France, c'est un peu différent, en Belgique, ça l'est de plus en plus, mais ça l'était absolument pas quand j'ai commencé. Oui, le fait de faire de la télé m'a permis de remplir mes salles, mais il y avait tout à faire. Et pour moi, la difficulté est juste différente. Beaucoup de gens en Belgique disent « Vous avez de la chance au Québec, t'as juste besoin de rentrer dans un système, puis le système peut te propulser, c'était assez bon. » Puis beaucoup de gens au Québec me disent « T'avais de la chance en Belgique, tu pouvais faire ce que tu voulais, tout était à faire, en fait. » Mais les deux sont vrais, en fait. C'est juste qu'il y en a un des deux où il faut que tu sois solidement entrepreneur pour pouvoir réussir à percer et faire quelque chose. Et dans l'autre, il y a de la compétition. Donc, si tu décides de faire une blague sur un sujet, tu en as 15 autres qui ont une blague sur le même sujet, tu intéresses à être le meilleur direct. Donc, c'est pas la même chose, mais oui. Une des raisons qui fait que j'ai pas commencé l'humour au Québec puis je l'ai commencé en Belgique, c'est parce que c'est vraiment le syndrome du gars pas populaire au secondaire, ça. Qui avait peur d'être jugé par les gens qui me connaissent, qui d'entendre « tu crois que c'est drôle ça? » De tellement vouloir faire quelque chose et de te rendre compte que t'as pas le talent pour le faire, c'était assez tétanisant. Alors qu'en Belgique, je partais de nulle part avec personne qui me connaissait. Au pire, si je me plantais, j'avais filet de sûreté. Donc oui, il y a cette portion-là de stress. Mais au moins égal à ça, il y a le fait qu'après avoir justement rencontré ces gens-là et avoir vu leur vie, avoir vu François Bellefeuille, qui avait eu un premier show, qui avait cartonné, c'est une superstar, Mike Ward, superstar. Ces gars-là passent 100, 200, 250 jours par année en show ou sur la route. Et les distances au Québec, c'est pas les mêmes. En Belgique, moi, je trouvais ça un peu chiant de faire une heure de route pour aller jouer puis revenir. Je rentre à minuit chez moi tous les soirs. Mais là, quand tu vas jouer dans le bas du fleuve, à la côte nord, tu vas jouer au Saguenay, tu vas jouer au Nouveau-Brunswick, tu peux être parti pendant une semaine. Et j'ai 37 ans, j'ai un jeune enfant, elle ne m'attire plus du tout, cette ville-là. Et si j'habitais, j'ai fait le choix d'habiter loin de Montréal, la capitale, j'habitais à 3 heures de route de Montréal, parce que j'avais envie d'être près d'où je suis né, j'avais envie de vivre vraiment en campagne, dans le milieu du bois, en forêt. Si j'étais à Montréal, je connais des gens qui vivent que de ça en ne sortant pas de Montréal. Moi, je peux pas le faire ici. Il y a un genre de petit bar qui est le chalet du mont de ski où il y a 27 pistes au bout de ma rue. Je peux jouer, mais je peux pas jouer 100 fois par année pour en vivre. Et donc, sachant que je peux pas le faire de chez moi, que je dois être sur la route, je me suis dit, même quand j'aurai du succès, si j'arrive à en avoir, je vais être dans une vie que j'aime pas. Et si, en attendant, ça va être pénible, parce que là, passer 4 heures sur la route pour aller jouer ton spectacle, c'est une chose. Passer 4 heures sur la route pour aller jouer 10 minutes, avoir une chance sur deux de te taper un bide, parce que si tu veux t'améliorer, il faut que tu te tapes des bides. Ça m'intéresse pas du tout. Et je vais vous raconter comment j'ai su que ça m'intéressait pas. La première fois que je teste quelque chose au Québec, c'est justement Pierre-Bruno Rivard, celui de l'animateur du Carré de Sable, qui est un ami, qui me dit « Tu sais quoi, Dan, tu reviens au Québec, je vais t'aider, je vais appeler les gens que je connais, je vais te booker des shows. » Moi, je revenais au Québec, je me dis « Oui, évidemment, ça m'intéresse, je vais aller jouer partout. » Il me book un 10-15 minutes à Shawinigan. En gros, ça me prend à peu près 2 heures de route, aller 1h30, 2 heures de route pour aller, 1h30, 2 heures de route pour revenir. Et je suis avec lui et l'humoriste principal, qui est très drôle, s'appelle Christine Morancy. C'est elle. Donc, moi, je fais genre 15 minutes. Bébé fait genre 20 minutes, une demi-heure, je sais pas, puis Christine Morancy fait plus long. Les deux cartonnent. Moi, c'est vraiment bof. J'ai pas honte, mais c'est à peu près ça mon succès, quoi. C'est le plus haut que j'ai été cette soirée-là. Absence de honte. Mais pas content, évidemment. Puis je me dis, putain, c'était vraiment chiant de faire toute cette route-là pour ce truc-là. J'ai dit, tu sais quoi, je pense, en fait, ça m'intéresse pas. J'avais été stressé 2-3 jours avant. J'avais pas de plaisir. Alors que pendant ce temps-là, je commençais à écrire pour d'autres. Puis là, j'avais du fun à me lever puis à le faire. Et je dis, en fait, je pense que c'est pas ma vie. Puis il me semble que c'est PB qui m'avait conseillé. Il m'avait dit, tu sais quoi, rejoue. Rejoue pour t'assurer que c'est pas juste parce que t'es habitué que ce soit plus facile que ça pour toi et que c'est la difficulté qui t'arrête. Si tu t'arrêtes parce que... Et tu peux faire ce que tu veux, évidemment, dans la vie, mais si tu t'arrêtes parce que tu trouves ça difficile en te faisant croire parce que c'est pas la vie que t'aimes, il y a quelque chose qui sera pas sain et réglé à l'intérieur. T'as raison. Et donc, il m'a booké 2 autres shows à Montréal, une semaine ou 2 après. Et je suis allé faire les 2 shows. Et ça s'est bien passé, vraiment, ça s'est bien passé. Les gens rigolaient, tout ça. Et j'étais hyper content. Je me souviens d'être sorti justement de cette salle-là qui s'appelle L'Abreuvoir, où j'avais joué avec Étienne Dano. Et de m'être dit, eh bien, je suis super content. Parce que maintenant, je le sais que j'ai pas envie de faire ça. Pour le moment. Hein. Mais je viens de recevoir la drogue de l'humoriste. Là. C'est-à-dire, j'ai testé des blagues devant des gens qui ne me connaissaient pas. Faire des blagues, c'est super. Faire rire, c'est génial. Faire rire des gens qui te connaissent pas, qui t'ont jamais vu, c'est une coche au-dessus. Et faire rire des gens qui t'ont jamais vu avec des blagues que t'as jamais faites. Donc, faire rire avec des nouvelles blagues, des gens qui ne savent pas qui tu es, pour moi, c'est suprême. C'est le top du top. Et j'ai eu ça. Et malgré tout, je me suis dit, nah, non, j'ai pas envie. Et ça m'a fort apaisé. Donc voilà, ça m'a forcé à réfléchir un peu en attendant ce passage-là du podcast. Et j'avais envie de partager mes réflexions. Maintenant, j'ai terminé de dire ce que j'avais à dire. Donc, je vous remercie encore une fois de suivre le podcast. Merci beaucoup de me suivre dans des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres d'une journée à l'autre. Entre violence médicale, les feux de l'amour, moi-même, quand je parle de moi-même, des sportifs, voilà. Dans les prochains sujets, comme ça vous savez, je cherche toujours des témoins, si ça vous intéresse, si ça avait été adopté, contactez-moi, Facebook, Instagram, Twitter, j'ai envie d'entendre votre anecdote, votre vie plutôt, anecdote, excuse-moi, j'ai commencé à en récolter, super intéressant. Si vous avez déjà donné votre sperme ou avez pensé à donner votre sperme, ça m'intéresse aussi profondément, contactez-moi, même principe, Facebook, Twitter, Instagram, peu importe. Merci d'avoir suivi le show, merci de vous abonner sur Spotify, je vois que ça augmente petit à petit. C'est hyper beau de voir ça, de travailler de longue haleine. C'est pas du buzz, c'est une petite personne en plus, une petite personne en plus. Pareil sur le Patreon, si vous avez envie de m'encourager, si vous aimez le show, vous voulez en faire partie, vous voulez vous rapprocher un peu d'être au cœur du projet. Ça commence à 5$ US par mois pour 20 shows par mois. Merci beaucoup ceux qui sont là. On a l'occasion d'échanger souvent. C'est hyper agréable. Et sinon, Google Podcast et toutes les autres plateformes. Donc, merci beaucoup. Passez une bonne journée, puis on se reparle au prochain show. Évidemment, je suis aussi ouvert à toutes vos suggestions et vos commentaires. N'hésitez pas à m'écrire.